Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La Brittany Ferries arrête ses liaisons depuis Cherbourg et Le Havre aujourd'hui. Sur les 12 bateaux de la compagnie maritime, 7 restent à quai. Le manque de clients fait tanguer l'entreprise, vous l'entendrez. Le masque est bel et bien obligatoire à l'extérieur en France. Le Conseil d'État valide les pouvoirs des préfectures localement. Alors que dans les Bouches-du-Rhône, l'épidémie de Covid-19 inquiète dans les hôpitaux. Témoignage depuis Marseille dans ce journal. Nous nous intéresserons aussi à la 5G et à ses possibles effets sur la santé. Un rapport à ce propos doit être remis au gouvernement aujourd'hui. Les experts n'avaient que 2 mois pour s'y pencher. Et puis notre correspondant en Russie nous expliquera comment fait l'opposition pour convaincre en l'absence de sa tête d'affiche Alexei Navalny. Il est toujours dans le coma hospitalisé à Berlin. Les dirigeants de la Brittany Ferries en appellent à l'État. La compagnie maritime française vit sa pire crise de son histoire entre le confinement du printemps, la crise économique depuis et le repli du tourisme. Faute de passagers et en raison d'importantes difficultés financières, la Brittany Ferries va désarmer 2 nouveaux bateaux aujourd'hui. 7 des 12 bateaux de l'entreprise sont donc à quai, Catherine Pétillon.
Cherbourg, Saint-Malo, Le Havre. Jusqu'au mois de mars, ces villes ne verront plus de bateaux de la Brittany Ferries partir pour l'Angleterre. La compagnie maritime ferme peu à peu ses lignes. Les bateaux resteront à quai et le personnel au chômage partiel. Pour payer ses fournisseurs et ses salaires, l'entreprise a emprunté 117 millions d'euros dans le cadre des PGE, les prêts garantis par l'État. Faute d'activité suffisante cette année, elle en appelle à l'aide des pouvoirs publics pour être en capacité de rembourser dès l'an prochain, tout en préservant l'emploi. Un plan interne devrait générer 15 millions d'économies via des CDD supprimés, des non-remplacements de départ à la retraite et la polyvalence des salariés dont les postes et le temps de travail pourraient évoluer. L'entreprise a aussi obtenu des soutiens politiques locaux. Il faut dire que c'est un créateur d'emplois direct et indirect majeur dans la région. Les collectivités locales sont coactionnaires de sociétés possédant une partie des bateaux utilisés par la Brittany Ferries. Un accord doit être signé cette semaine qui permettra à l'entreprise des économies sur les loyers, là aussi à hauteur de 15 millions d'euros. Les députés de la région ont aussi porté l'appel fait au gouvernement. La Brittany Ferries demande une exonération des cotisations salariales des marins, comme c'est déjà le cas pour les cotisations patronales. Une mesure de compétitivité avec ses concurrents mondiaux, estiment les dirigeants. Sur le principe, l'appel à l'aide semble en tout cas avoir été entendu par le gouvernement. « Nous sommes prêts à soutenir l'entreprise pour bâtir un modèle économiquement viable sur le long terme », a déclaré la semaine dernière Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie a ainsi mandaté le comité interministériel de restructuration industrielle pour étudier la situation de la compagnie.
Catherine Pétillon, que nous retrouverons tout à l'heure sur France Culture à 7h25 pour le reportage de la rédaction qui a été tourné en Bretagne auprès des clients et des salariés de la Brittany Ferries. Je rappelle que depuis la mi-août, une 14aine a été imposée par le Royaume-Uni à tous ceux qui arrivent de France. Un nouveau coup dur pour cette compagnie maritime. La 14aine en France maintenant, elle pourrait être réduite. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, envisage en tout cas d'assouplir cette mesure pour les cas contacts asymptomatiques. Pour se protéger du nouveau coronavirus encore, le masque est toujours d'actualité, lui, et il a été validé par le Conseil d'État hier soir. Conseil d'État qui entérine en grande partie les arrêtés préfectoraux sur la généralisation du port du masque en extérieur, mais il précise cela peut se faire dans les zones denses et les zones à risque. Avec près de 25 000 nouveaux cas ces 3 derniers jours en France, les indicateurs de l'épidémie continuent globalement de se détériorer. Et c'est particulièrement le cas dans les Bouches-du-Rhône. Dans les hôpitaux du département, 1 patient sur 4 est malade du Covid-19. C'est ce que révèle l'assistante publique des hôpitaux de Marseille qui veut lancer l'alerte. Une 60aine de lits de réanimation sont occupés selon l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Il devient donc difficile de gérer les hospitalisations classiques en plus des cas Covid. Pour Laurent Papazian, chef de la réanimation de l'hôpital Nord à Marseille, la situation pourrait se compliquer très rapidement.
Risquons fort dans 2, 3, 4 semaines d'être en très grosse difficulté et de ne pas pouvoir prendre en charge tous les patients et peut-être de devoir évacuer des patients vers d'autres régions et aller vers des déprogrammations de programmes opératoires, ce qui serait tout simplement catastrophique. La situation est particulièrement préoccupante sur la ville de Marseille. Dans les villes environnantes, la situation est moins critique et c'est pour ça qu'on opère des transferts de patients, d'autant que les moyens ne sont pas extensibles et que pour l'instant, on est sur une capacité de lits qui est constante et on n'a pas les moyens d'augmenter de façon très significative le nombre de lits de réanimation par faute de personnel médical et soignant.
Des propos recueillis par Nina Valette. Le gouvernement prendra-t-il en compte les études scientifiques et environnementales sur les risques potentiels de la 5G? Alors que le secrétaire d'État au numérique Cédric O affirmait vendredi qu'aucune question de santé n'était soulevée par la 5G et que le déploiement de cette nouvelle fréquence se fera bientôt en fin d'année, un rapport doit être remis au gouvernement aujourd'hui, Tara Schlegel.
2 mois et 5 jours, voilà le temps que les inspecteurs ont eu pour travailler sur l'épineux dossier de la 5G. Alors que les premières fréquences ont déjà été mises aux enchères le 31 décembre dernier, alors que dans 14 villes des plateformes 5G existent déjà, alors que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, sont en train de rédiger un rapport sur les effets sanitaires qui ne sera remis qu'en 2021, ce sont d'autres instances qui sont entrées dans la danse cet été. Elles doivent examiner des expériences étrangères. Angleterre, Allemagne, Chine, Espagne, Italie, États-Unis, Suède et Suisse. La lettre de mission leur demande d'analyser les conclusions des autorités sanitaires de tous ces pays à propos de la 5G. Elles doivent aussi estimer l'augmentation à venir des niveaux de rayonnement auxquels nous serons soumis. Ce qui est difficile car justement, il n'existe quasiment pas d'études sur le sujet. Et c'est d'ailleurs la question que se pose dans son rapport préliminaire l'ANSES qui se demande si l'on peut extrapoler à la 5G ce que l'on sait déjà des effets de la 4G. Les associations qui militent contre le déploiement de cette nouvelle génération, en rappelant qu'il y a des centaines d'études qui montrent que les ondes électromagnétiques perturbent les cellules, jusque dans leur ADN, et amplifient certains cancers chez le rat notamment, ces associations ont été auditionnées il y a moins de 10 jours par les inspecteurs. Vu les délais, elles redoutent que le travail de synthèse ne soit un peu bâclé.
Le patron de Suez tira boulet rouge sur Veolia. Bertrand Camus qualifié d'aberrant le projet de rachat par Veolia de la part d'Engie dans Suez. Il dénonce ce matin dans les colonnes du Figaro une opération financière opportuniste et même funeste pour la France. L'offre de rachat de Veolia avait aussi été repoussée par les syndicats qui appellent d'ailleurs les salariés de Suez à débrayer pendant 2 heures demain matin. Des dizaines de milliers de Bélarusses ont défilé de nouveau hier à Minsk à l'appel de l'opposition. Elles réclament le départ du président Bélarus. Russe, Alexandre Loukachenko. Le régime a répondu par de nouvelles arrestations à la mobilisation des étudiants. Ils avaient multiplié les actions et s'étaient même mis en grève après la rentrée du 1er septembre dernier. Plus à l'est maintenant, le bras de fer continue toujours autour de l'opposant russe Alexei Navalny. L'Allemagne, qui l'accueille et qui le soigne, a demandé hier encore des explications sur son empoisonnement avant de possibles sanctions contre Moscou. Et en Russie, que se passe-t-il pour l'opposition? En l'absence d'Alexei Navalny, des élections partielles régionales auront lieu dans moins d'une semaine et le Front de lutte contre la corruption ne rate pas une occasion de se mobiliser partout dans le pays, Claude Bruyot.
À Khabarovsk, à 7000 km de Moscou, le collectif d'Alexei Navalny est au cœur du mouvement d'opposition qui manifeste contre le Kremlin et contre l'arrestation du gouverneur local chaque samedi depuis 2 mois. L'absence de leur leader ne les a pas découragés. Pas davantage à Moscou, la stratégie du vote intelligent d'Alexei Navalny sera reconduite en fin de semaine à l'occasion des scrutins régionaux et locaux. En appelant à voter pour le candidat, quel qu'il soit, le mieux placé pour battre le représentant de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, les Navalnys à Moscou ont fait perdre l'an dernier un tiers de ses sièges au camp présidentiel. Une stratégie payante pour l'opposant Alexandre Soloviev, 32 ans, qui a côtoyé Alexei Navalny dans son combat contre la corruption du pouvoir.
C'est un système idéal dans mon cas. Parce que ma candidature a été interdite, j'avais été arrêté et emprisonné. Parce que je m'opposais au candidat du pouvoir. Et grâce au vote intelligent, c'est mon idée qui s'est réalisée.
La difficulté pour le camp d'Alexei Navalny, qui revendique plus d'une cinquantaine de relais régionaux structurés, ne se situe pas au niveau de la mobilisation, mais davantage sur le plan financier, soumis à des saisies régulières et à de très fortes amendes.
C'était Claude Bruyot pour France Culture. Julian Assange, de retour devant le tribunal. Interrompu par la pandémie, l'audience reprend aujourd'hui à Londres pour statuer sur la demande d'extradition des États-Unis. Julian Assange y risque jusqu'à 175 ans d'emprisonnement pour avoir publié via WikiLeaks des documents relatant de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine. WikiLeaks a-t-il rendu la diplomatie plus transparente? Question posée par Julie Gacon à son invité des enjeux internationaux. Ce sera dans 5 grosses minutes sur France Culture. Le temps pour moi de vous donner la météo du jour. Frais et ensoleillé, voici le temps prévu ce lundi sur l'Hexagone après un risque d'averse ce matin sur le sud-est. Comptez 10 degrés ce matin à Clermont-Ferrand, 12 à Rennes, 14 à Lille, Paris, Strasbourg, 20 degrés à Marseille.